Coup sûr.
Les gens qui veulent pas rien savoir de ça, là, ben allez-vous.
Dans le mid.
En vacances.
Radio. X.
Ça s'appelle Couture dans le Mid. Cette semaine, exceptionnellement, c'est le Space Cash.
Yes!
Je m'appelle Jean-Francis Blais, Camille Bergeron également.
Money,
et là.
Money, money.
Ah oui, et ça viendra d'ici midi, nos conseils économiques, parce qu'un Mid appartenant à Pierre Couture ne serait pas un Mid sans conseils économiques. Allez, sans perdre de temps, on s'en va rejoindre un gars que j'aime beaucoup, avec qui on a du fun depuis des années dans le Spacecast en soirée.
Oui.
Il est, en mon sens, le meilleur de la business quand il est question de parler de fumoir, de barbecue, de plancha.
Et aussi en motocross.
Effectivement, puis c'est un beau cadeau que la vie nous fait de pouvoir lui parler quasiment au début du mois d'août. Alors qu'il est en un seul morceau. Parce que généralement, il est toujours rendu à cette date-là en format paraplégique. On s'en va rejoindre Michael Béliveau, le maître fumeur lui-même. Salut, Michael.
Salut, comment ça va?
Ça va très bien toi-même?
Ben oui, ça va bien. Salut, Camille. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé.
Effectivement, je suis bien contente de te retrouver.
Yes, et à un morceau en plus, fait que c'est parfait.
Yes. Yes.
Hey, Michael, je commence ça avec... je veux savoir si... Je veux ton stamp d'approbation ou de désapprobation. Il y a un auditeur qui est un auditeur de nos chroniques barbecue ensemble qui m'a contacté en fin de semaine passée et qui m'a dit... hey, j'ai un bel anniversaire de couple avec ma conjointe. On s'est gâtés, on s'est acheté une pièce de macreuse vieillie, la patente, la totale. Et il m'a demandé quel rub je devrais mettre là-dessus parce qu'il sait que je suis un fan de rub de mix d'épices. Puis j'ai dit, écoute, je sais que le réflexe est tentant de vouloir mettre du rub, mais là, tu t'es gâté avec une belle pièce de viande. Pour moi, la vedette, c'est le bœuf. Fait que vas-y uniquement avec sel, poivre. Est-ce que j'ai erré dans mes conseils?
Non, c'est parfait. C'est super bon comme réponse. Puis en plus, tu sais, c'est une pièce qu'on va venir saisir souvent à la macreuse qui ressemble un peu à bavette. Si on vient mettre un rub dessus, puis après ça, on s'en vient saisir en fou, ben on va tout simplement brûler nos épices. Fait que sel, poivre, c'est parfait. On vient saisir ça, on le fait griller en cuisson indirect après. Puis mettons qu'on veut un rub. Tu sais, souvent, le sucre ne s'approprie pas au bœuf. Fait que tu sais, restez vraiment sel, poivre, poudre d'oignon, poudre d'ail. On coupe ça, puis après ça, on vient rajouter nos épices dessus. Mais tu sais, on va y aller vraiment basic. Fait que ta réponse était parfaite.
Bon, excellent. Dans les deux dernières années, année et demie à peu près, là, moi, j'ai découvert qu'avec le bœuf, le café, c'est un mix assuré. Ça fait tellement bon. Là, ça fait des mix incroyables. Fait que non, moi, je suis un gros fan de rub, mais des fois, il faut savoir se retenir.
Oui, c'est ça. Faut pas trop en mettre, faut pas perdre le goût. Puis même le rubs café, tu t'en parles, même avec le poulet puis le porc, c'est super bon rajouter du café, autant dans les rubs qui sont sucrés. Ça vient vraiment rajouter un petit goût de plus. Puis si jamais vous voulez vraiment impressionner tout le monde, achetez en ligne du charbon alimentaire. C'est du charbon en poudre. C'est noir, 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 noir. Tu rouvres le pot, tu penses qu'il est vide tellement que c'est noir. Puis tu viens rajouter ça dans tes rubs, ça fait que ta pièce de viande vient complètement noire. Fait que c'est spécial comme look, ça goûte pas, mais ça vient vraiment donner un look de fou, là.
OK, c'est uniquement pour le look, ça n'a pas de goût.
Non, ça n'aura pas de goût. C'est vraiment pour le look ou pour les rubs. Quand vous voyez des rubs noirs, noirs, regardez en arrière, c'est du charbon actif alimentaire qui est en arrière. Puis ça, c'est vraiment pour le look, là.
OK. Hey, Michael, avant qu'on poursuive, il y a un enjeu de circulation. On va juste informer nos auditeurs parce qu'en soirée, d'habitude, c'est tranquille,
oui.
Ça circule, là. Mais là, à cette heure-là, je vais avoir l'air d'un vrai fou si je ne fais pas.
En plein vendredi, fin de semaine des vacances de la construction. Puis en même temps, pour poser des questions à Michael, ça va être le même canal de communication que vous êtes en train de nous dire qu'il y a un camion qui brûle sur Henri IV actuellement, direction sud, à mon avis, à la hauteur de Charest, parce que c'est là que le point le plus rouge de la carte commence. Un petit peu avant l'autoroute Charest, puis ça se poursuit jusqu'à pratiquement Chemin Sainte-Foy actuellement. Là, fait okay. que début de congestion là, sur Québec.
All right. Et dans les questions qu'on avait pour toi...
En même temps, c'est thématique, un char en feu, là, mais je voulais pas, je voulais pas aller trop dans les détails.
Ouais, à quelle distance il faut se tenir du char si on veut une belle cuisson indirecte?
deux, trois pieds, là, si on veut une belle caramélisation.
C'est sûr que la personne qui est en train de regarder son char brûlé, c'est un gars qui va passer oui. croche.
Ouais.
Exactement, mais c'est pas grave.
Yes. Hey, Michael, la meilleure brosse à barbecue de la business, c'est laquelle? Il y a quelques années, là, les gens s'arrachaient les cheveux quand on parlait du Grill Daddy Pro. Je l'ai essayé avec l'eau dedans, toute la patente. C'était nice, mais on est peut-être rendu ailleurs.
Ben, tu sais, honnêtement, le problème, c'est drôle parce que j'ai eu ce problème-là la semaine passée. Là, c'est à l'heure là, qu'il ne faut plus acheter des brosses avec des pics en métal parce que là, le monde t'a fait ça pendant 25 ans, puis après ça, il était surpris de retrouver des pics d'un gris, là. Ouais. Mais ça reste encore la meilleure brosse. C'est des brosses avec des pics en métal. Là, ils en sortent en bois, qui prennent la forme de la grille. Ça va pas bien. Il y en a que c'est comme des poils, on dirait un genre de plastique, mais ça prend en feu trop facilement. Fait que, honnêtement, restez avec les brosses avec des pics en métal, mais changez-la tous les années. Le problème, c'est pas la brosse, c'est les gens qui les gardaient pendant 15 ans. Finissait qui était tellement fini, détruit, que là, tu te ramassais avec des morceaux de métal dans ta bouffe. Fait que ça reste la brosse parfaite pour brosser le barbecue. Puis si jamais vous voulez avoir un peu de stimage, bon, ben là, vous pouvez venir arroser vos grilles pour l'amener la déglacer, si on peut dire comme ça, pour la nettoyer, mais ça reste la brosse à métal.
Moi, une brosse, je suis tombé en amour avec, vraiment. C'est sûr que, tu sais, c'est un investissement. Généralement, quand tu t'en vas t'acheter une brosse à barbecue, c'est rare que tu te dis, je vais péter le 20-25$, là, c'est, généralement. Là, on parle des alentours d'un 100$, mais la broche boyée.
Oui, avec des springs comme des matelas de lit, ouais. Ça va super bien. Exact. Moi, je m'en sers beaucoup. C'est juste que où j'ai vu des problèmes, ben des problèmes, c'est pas un problème. Mais quand la grille est un peu hexagonale, faut venir jouer un peu sur notre angle. Mais oui, c'est la brosse qui va passer les années puis qui. Tu sais, j'en ai deux, puis honnêtement, j'utilise pratiquement tout le temps.
Oui, puis pour vrai, parce que tu sais, chaque année, dans les nouvelles d'été, il y a tout le temps un topo avec une Louise qui a avalé des poêles de brosse, puis que là, elle saigne quand elle fait kika, là. Mais avec les brosses boyées, si tu avales un spring, là, tu peux pas te tenir d'à côté d'un paquet de vis, là, parce que c'est à la même
grosseur. Non, c'est ça. Ah non, c'est ça. Tu peux pas t'en empêcher. Tu vas le sentir, mais oui, honnêtement, oui, c'est une super bonne brosse.
Ah ouais, si ça passe, tu le sens pas, là. Je veux te connaître. hey, autre question, puis je l'adore, celle-là. Question pour le maître fumeur. Quelle est la pièce de viande la plus sous-estimée à fumer pour lui?
La plus sous-estimée, c'est tellement bon, ça. Moi, je pense que c'est la longe de porc. Parce que le monde, c'est une pièce de viande qui est sec.
C'est une pièce
de viande qui est pas chère. Puis c'est rare, tu vas voir quelqu'un dire, moi, je fume une longe de porc à soir. Tu sais, on va aller chercher des pièces qui sont grosses. Pourtant, la longe de porc, moi, je pense que c'est une pièce que tout le monde devrait prendre pour commencer. Parce que aussitôt, c'est sûr que c'est plus touché, parce que là, je vais vous parler de summer et de salaison, mais juste en faisant ça, c'est une pièce de viande qui a une saveur incroyable. Puis le filet de porc, même moi, j'étais comme les filets de porc, je suis tanné. Ça faisait des années que je n'avais pas fait. Puis là, j'ai fait des petits 5 culinaires avec Pit Boss. Puis dans le fumoir, il a mis des filets de porc qu'un Rubs. C'est 5 de même, pas de flafla, pas de summer, pas de salaison. Puis j'ai goûté après, puis maudit que c'est bon.
Mais t'es
des fois, on dirait que j'essaye d'aller trop. Pas trop en. Tu sais, mettre un Rubs, mettre une summer, mettre une. Tu sais, c'était simple, mais c'était tellement bon, puis ça coûte rien à faire.
Mais t'es as-tu injecté? T'as-tu fait. Parce que non. Comment on fait pour avoir un bon filet de porc qui soit pas un peu fade? Oui, ça a tout le temps un bon goût si tu mets un bon rub, mais un filet de porc, ça. Tu t'ennuies du flan de porc, là.
Ouais, mais tu sais, un petit filet de porc, un rub, il faudrait pas injecter rien, c'était vraiment bon. Tu sais, je suis comme retombé au début d'une pièce de viande fumée sans flafla. C'est pour ça que je dis, tu sais, on dirait que. Puis avec raison, tu arrives sur Internet, tu regardes des vidéos de ribs à cette heure, là, t'as le gars texan qui dip ça dans une tonne de miel avec des épices là-dessus. Puis, fait que là, tu regardes ça, tu sais, comme, hey, moi, je peux pas juste mettre des ribs sur un grill, mais oui, c'est bon. Juste, tu sais, on dirait qu'on essaye trop. Mais c'est des vues. Tu sais, on s'entend avec des clics et des vues. Fait que tu passes ton temps à regarder des vidéos sur Facebook, ça a tout le temps l'air 1000 fois meilleur parce qu'il y a un paquet de trucs autour, mais retourner à la base, je pense que c'est important.
Il y a une autre question pour toi. Comment faire un bon glacing, un bon glaçage sur une pièce de viande? C'est souvent, tu sais, mettons en faisant des côtes levées, là, la méthode du 3-2-1. Moi, je trouve qu'une heure de glaçage, c'est... En tout cas, moi, je serais pas capable, pas game, parce que ça viendrait qu'à cramer, ça serait pas le résultat comme je voudrais. Comment est-ce qu'on fait pour faire un bon glaçage?
Mais dans le fond, il y a plusieurs impondérables qui peuvent arriver parce que ça va dépendre d'un de la sauce. Si vous me dites que vous avez une sauce qui a aucun, ben pas aucun, mais façon de parler, moins qu'il y a de sucre à l'intérieur, moins que vous allez avoir un beau glaze. C'est aussi simple que ça. Parce que, tu sais, c'est elle qui va venir faire ma caramélisation. Fait que si j'ai une sauce qui est le moindrement moins sucrée, je peux venir glacer dès le début, ben pas dès le début, mais mettons au début de la dernière heure. J'aurai pas de brûlage qui va se faire, j'aurai rien. Mais si j'ai une sauce qui a énormément de sucre et de mélasse, parce que la mélasse, c'est comme l'élément clé dans une sauce qui va venir faire en sorte que là, on va avoir un glaze qui est ultra lustré. C'est la mélasse qui va venir faire ça. Fait que si on est à l'intérieur, ben là, t'es pas obligé de glazer pendant 25 ans. Tu peux glazer dans les dernières minutes puis tu vas avoir un super beau lustre sur ta sauce. Fait que c'est vraiment une question. Tu sais, il y a pas de réponse parfaite. Plus que ta sauce est sucrée, plus que tu la mets à faim parce que tu veux pas qu'elle brûle. Si elle a de la mélasse dedans, ben c'est là que tu vas avoir vraiment un lustre dans ta sauce.
Ça peut être une bonne idée d'avoir une sauce, évidemment, si on pense que ça s'y prête, là, mais de rajouter nous-mêmes la mélasse si on veut
ben
assurer.
Oui, why not? Ben oui, puis goûtez-y, tu sais, rajoutez de la mélasse brassée, goûtez, rajoutez pour avoir ça à votre goût. Puis un petit truc que je peux vous conseiller, juste avant de sortir votre pièce de viande, venez rajouter... C'est pas excessif, mais un peu de mélange d'épices à frotter du début sur la sauce. Fait que ça va comme venir faire des flakes dans votre sauce. Si vous voyez ça sur une lettre, faites comment ça brille même dans sa sauce. C'est le mélange à frotter qu'on vient mettre juste en dernier. Il vient fondre un peu dans la sauce, mais on ne va pas y toucher. Fait qu'il reste des morceaux d'épices.
Tu vois, un des meilleurs trucs que tu m'as donné, que j'applique encore très, très, très souvent, plusieurs fois par semaine, puis c'est toi qui m'as dit ça, c'est... Tu fais cuire ta pièce de viande soit tout nu ou soit avec un genre de 1/10 du rub, puis à la fin, tu mets ton rub pour être sûr de ne pas le cramer, de brûler, puis d'avoir le plein goût. Pour vrai, moi, ça fait toute une différence, entre autres sur le flanc de porc.
Bien, surtout, puis moi, on est même rendu, puis là, d'un coup, j'en parle, je suis même rendu que je mets plus de sauce.
Ah,
c'est fini, moi, glazé. Puis là, sur la table, là, il y a des pots de sauce. Fait que le monde a trippé. Ça fait deux événements que je fais. Fait que là, le monde qui aime moins ça sucré, qui aime ça plus piquant, qui aime ça de la sauce blanche, ils viennent dipper leurs ribs ou leur burn-in ou name it à la fin dans la sauce qui a le goût. Fait que là, puis en même temps, au lieu que tout ton repas goûte l'estifi de sauce que tu as acheté parce que tu as pris deux pots, ben là, tu peux vraiment amener jouer ses saveurs. C'est ça, j'adore ça.
À Québec, je vais parler de ce que je connais. À Québec, les restos barbecue, fumoirs et tout ça, moi, je trouve qu'on a la mauvaise manie de noyer dans la sauce. Dès que c'est associé à barbecue, là, on dirait que c'est plus bouilli que fumé.
Je pense qu'on a commencé l'expérience barbecue avec la fameuse sauce barbecue, puis on s'est dit, on met ça partout.
Ouais, on est resté stické là-dessus.
C'est ça, la sauce barbecue, c'est pour le barbecue.
Hein? Dans ton coin, c'est-tu moins pire? Y a-tu des restos barbecue, mais barbecue, pour de vrai digne de ce nom?
Non, il y en a. Ben oui, il y en a un. Puis le pire, c'est que c'est complètement fou. C'est à Shawinigan. C'est relié avec le Trou du Diable. Ça s'appelle le Charbon. C'est un gars qui a parti ça. Puis avant de partir ça, lui, il a fait le tour du Texas. C'est un gars que je connais quand même bien. Puis, il fait des line-up de 4 heures là, pour goûter à des brisquettes, pour vraiment aller chercher. Puis, tu sais, il l'a, le gars. Puis, non, c'est pas tout noyé dans la sauce. Puis, c'est pas. Tu sais, il a compris aussi ce principe-là. Là.
Ah, moi.
Si vous voulez l'essayer, là, c'est une belle place là, dans le coin. Là.
L'autre jour, je suis allé. Moi, je suis un gros fan. Puis, ils ont déjà fait affaire avec nous autres. Fait que c'est pour ça que je suis pas gêné de les mentionner. Là. Fait à l'os sur Grande Allée. Eux autres, ils font une belle job. C'est pas si saucé que ça en plus. Fait que ça fait une belle job. Mais à un moment donné, je suis allé manger de la brisket, pas au fait à l'os, dans un autre restaurant, puis il y a des mottes de tomates sur ma brisket. Qu'est-ce que c'est ça? À quoi tu joues?
J'ai déjà des tomates, là, des tomates. C'est-tu mauvais, des tomates chaudes? Viens pas me mettre ça sur une brisket.
Dans des steakhouse, Michael, il y a la tomate grillée à côté, des fois, là.
Des fois.
Ouais, mais c'est hard. Oh, moi, j'ai de la misère avec ça.
Ah non, moi, je te dis, j'en revenais pas. C'était marqué brisket texane. Je suis comme, ben, on revoit ton Texas. On revoit ton Texas parce qu'il n'y a pas de tomates émiettées sur la brisquette. Jamais.
Ben, tu sais, il essaie peut-être juste d'être trop fancy. Puis des fois, c'est comme j'ai dit tantôt, quand tu essaies de trop en faire, on dirait qu'on perd la norme. Mais fait à l'heure, j'étais déjà allé là parce Et la sortie du tome 1, mon premier livre, la sortie, on a réservé le resto. C'est là qu'on a fait le monde réservé. On était 70, je pense.
Okay.
Puis, il y avait des billets à vendre. Puis c'est là que j'ai fait mon premier speech, ma première sortie de livre.
OK. Ah, c'est cool. Hey, justement, parlant de brisket, moi, l'épicerie pas loin de chez nous, pour pas les nommer métro, ont commencé à prendre, mettons, des poitrines complètes de brisket puis les couper en bouts. Est-ce que quand on veut faire, mettons, un bout de brisket plutôt que payer, mettons, 180$ pour la poitrine au complet, puis après ça, tu prends du monde manger ça, est-ce qu'on doit traiter la cuisson de la même façon ou à peu près, puis la préparation de la même façon que si on avait la pièce en entière, si on a juste un petit bout?
Ben, dans le fond, oui. La seule affaire, c'est que comme d'habitude, on va cuire à température interne et non au temps. Fait que ça va être beaucoup moins long, mais on respecte notre 225, on respecte notre 225 Fahrenheit pour l'intérieur du saumon, pour ceux qui savent pas les températures. On respecte la température interne à 165 qu'on vient râper. Fait que oui, c'est toute la même chose. C'est juste que la cuisson va être beaucoup moins longue, ça, c'est certain. Puis là, même que Metro, pour pas les nommer, on sort ici, là, il y a des brisquettes déjà semurées, prêts à mettre sur grill, prêts à cuire. C'est beaucoup populaire, mais le monde s'attend à acheter ça puis que ça soit quasiment du tout prêt. Puis là, ça m'écrit, puis là, ça capote parce que ça a pris 12 heures. Et c'est la même affaire, c'est juste qu'elle s'est murée. Puis là, le monde me demande, hey, t'as-tu la. Mais ouais, la photo, puis ils me disent, hey, peux-tu m'expliquer comment faire cuire? Puis là, c'est la photo, t'as le gros code QR qui est écrit, scannez-moi pour les instructions de cuisson. C'est comme, bon. Fait que bref.
Ouais, des fois, c'est juste lire l'emballage. Hein,
ouais. Ah, les gens
Eh bien, c'est ça. Puis tu sais, les saisons qui t'ont fait se murer, je pense qu'ils connaissent mieux leur produit que moi. Là, fait que je fais juste les référer à la recette.
T'es as-tu essayé? Parce que je sais de quoi tu parles. Là, je sais qu'entre autres, Lester en font une, genre de brisket déjà.
Exactement. Ben moi, j'ai essayé dans le sens que j'y ai goûté cuite parce que mon père était bien fier d'avoir fait une brisket, mais il l'a trop fait cuire, je pense. Ou pas assez, mais c'était sec un peu. Désolé, papa.
OK. Ouais, ouais, ben ça sort à radio.
C'est ça.
Le truc ultime pour faire des côtes levées, parle-nous un peu de la méthode 3-2-1 ou si tu as une autre méthode, là, let's go.
Ben dans le fond, oui, là, je vais vous parler de la méthode 2-2-1, 3-2-1, mais il faut savoir une chose, OK? Puis ça, j'en ai parlé encore, puis le monde, j'avais un beau groupe VIP en fin de semaine, puis il y en a plein qui ont cuisiné après le cours parce qu'ils sortaient de là crinqués, puis là, ils m'ont dit « Crime, c'est la première fois que je réussis mes ribs. » Des ribs, c'est tellement simple à faire. Plus que c'est cuit, plus que c'est tendre, c'est simple de même. Tu sais, le monde, souvent, 2-2-1, là, il arrive à la dernière heure, sort ça, il arrive pour les manger, elles sont raides, elles sont trop cuites. Non. Ils sont pas trop cuites, ils sont pas assez cuites. Tellement que si tu les laisses cuire assez longtemps, tu vas arriver pour les enlever du grill, puis les os vont rester là.
Ouais.
Fait que arrêtez de vous fier à 2-2-1, 3-2-1. Oui, OK. 2 heures sur le fumoir à l'air libre, 2 heures venir râper, 1 heure laisser là. Mais si vous arrivez pour les sortir du grill, puis ils plient même pas, puis vous voyez, c'est raide. Faites juste les laisser là plus longtemps.
Okay.
Si vous arrivez pour laquer, puis là, vous voyez que les os tombent déjà, laissez-moi pas ça à une hauteur. Ils sont prêts. Fait que c'est vraiment. Un autre, tu sais, je vous dirais pas, fiez-vous à température interne parce que personne ne va venir piquer ses ribs, mais juste avec les pains, vous allez pouvoir le voir. Fait que les ribs, plus que c'est cuit longtemps, moi, je fais mes ribs à cette heure, je fais des baluchons de côte levée. Fait que je prends des ribs, je mets ça avec du fromage à crème dans des baluchons de feuilleté, puis je mets ça au four, ça donne des bouchées, c'est incroyable. C'est complètement fou, je fais ça dans mes traiteurs, le monde aime ça, mais mes ribs, j'ai fait cuire pendant 7 heures.
7 heures? Wow! OK.
Yes! Fait que moi, je sors ça du fumoir, là. Je prends des gants, là, j'ai flushé comme du porc est flushé.
Ouais, c'est sûr.
Mais c'est des côtes levées.
Parce
c'est complètement débile.
C'est-tu que tu vises 205 de température
Exactement.
Interne?
Exactement. Okay. En plein ça. Fait qu'après 7 heures, je suis sûr que je me bats pas pour les efflocher. Il reste plus une graine de viande sur l'os. Puis tu sais, mettons, je fais 20 racks de ribs, ça me donne à peu près 300 baluchons. Fait que je fais ça one shot, puis c'est écœurant, mais c'est long à faire, papy.
Puis est-ce que dans ton 7 heures, il y a une part d'emballage ou ils sont pas ils sont pas râpés?
Oui. Je viens les râper, là, je te dirais, après 3 heures à peu près, parce qu'ils absorbent plus la fumée. Fait que je suis certain que j'ai ma température de 165 est atteinte. Puis après ça, je les laisse emballer, puis je les dérape même pas la dernière heure, parce que je m'en viens pas mettre de sauce. Puis ce que je fais, c'est que tout le monde qui ont fait des ribs, qui ont déjà emballé des ribs, vous vous rendez compte qu'à la fin, il y en a du liquide dans le papier d'aluminium, même si vous avez mis juste un soupçon de push-push. Bien, moi, tout ce liquide-là, je le garde, puis je m'en viens filocher mes ribs dedans.
OK. Et est-ce que tu es plus team côte de flanc ou côte de dos?
Hey, puis ça, c'est fou. J'étais tellement côte de dos, puis là, je suis plus capable. Je suis rendu côte de flanc. C'est incroyable comment c'est 100 fois meilleur.
Comment est-ce qu'on fait pour déterminer qu'une pièce est une belle pièce?
Ouais, parce que moi, vous me perdez, ouais, là.
Côte de flanc, là, tu peux avoir de la tiraille là-dedans. Si tu pognes un mauvais morceau, là, tu peux pogner de la gosse, comme on dit par chez nous.
Ah, ouais,
ouais, ouais, ouais, des petits cartilages, là. Ouais. Ça, c'est pas... Mais dans le fond, quand vous achetez de la côte de flanc, faites juste acheter quand c'est écrit Coupe Saint-Louis. Okay? Okay. Quand ils ont fait la Coupe Saint-Louis sur la côte de flanc, ça veut dire qu'ils sont venus retirer justement les deux côtés de la côte ou qu'on commence à avoir du cartilage vers les côtes de dos. Fait que ça coupe là. Fait que vous n'avez plus ce petit crunchant fatigant là. Sinon, si vous l'achetez plain, allez voir des vidéos sur YouTube. Il y a des vidéos pour dire comment faire la Coupe Saint-Louis. C'est assez simple. C'est juste que vous perdez toute la partie que vous venez de couper avec les os, là, à moins de faire une recette avec, mais tu sais, acheter des côtes de flanc, coupe Saint-Louis, vous allez être en business.
Est-ce que tu appliquerais les mêmes conseils que tu viens de donner pour des short ribs, des côtes de bœuf?
Oh, les côtes de bœuf, c'est une autre technique complètement. Les côtes de bœuf, l'affaire, c'est que c'est des cuissons beaucoup plus longues.
Ah ouais,
c'est plus 2-2-1. Là. Les côtes de bœuf, on peut s'attendre à un 10 à 15 heures de cuisson. À 225, on wrap ça, rubbez-moi ça, là. N'ayez pas peur, parce qu'on n'aura jamais de saisie qu'on va venir faire sur notre pièce de viande. Fait que PPP, là, poudre d'oignon, poudre d'ail, poivre, sel, on vient mettre une bonne couche là-dessus. On vient faire fumer ça jusqu'à une température interne de 170 facile. On vient wrapper dans du papier de boucher, si possible, parce que ça va vous créer un beau bark, puis on veut pas le perdre. Si vous avez juste du papier d'aluminium, c'est pas grave. Venez wrapper ça, puis montez-moi ça à une température de 204. On ne veut pas aller jusqu'à l'effilochage, mais on monte assez haut. Puis moi, je garde la membrane en dessous de l'os parce qu'il n'y a pas de viande. Fait que ça ne donne rien de l'enlever.
Okay.
En plus, ça va venir faire en sorte que ma pièce va se tenir quand je vais la couper parce que sinon, vous allez voir, elle va être portée assez filochée puis elle va décoller. Fait que moi, en gardant la membrane sur la côte de bœuf, elle est bien plus belle quand je la sors. Puis ça ne change rien que j'ai une membrane ou non. Il n'y en a pas de chair.
Je me suis toujours posé la question parce que, tu sais, avec des côtes levées, la membrane, t'enlèves ça avec un Scott Towel, tu sais, puis ça vient faire toute la différence quand vient le temps de la manger. Mais côte de bœuf, souvent, c'est... Moi, c'était tout un challenge. J'enlevais ça, là, parce que ça s'enlève.
Non, c'est clair, puis ça donne à rien.
OK. Ah, ben crime. C'est bon à savoir, ça. Très, très bon à savoir. Au niveau des essences de bois, qu'est-ce qui est l'idéal pour des côtes levées en tout genre?
Côte levée de porc, on va y aller dans un bois qui est quand même doux, t'sais, pommier, cerisier, érable. Honnêtement, t'sais, vous pouvez aller vers, si vous voulez plus de goût, vous pouvez aller vers le curry mesquite. Il n'y a pas de stress. Puis, honnêtement, mettons, vous me dites, hey, moi, j'ai une poche de bois à acheter. Allez-y dans le bois fort. Allez-y dans les curry mesquite parce que souvent, le monde trouve ça jamais assez fort, surtout aux granules, parce que c'est tellement une fumée qui est parfaite que le monde ne sont pas habitués. Ils sont habitués au gros charbon, puis là, met le bloc de bois, grosse boucane blanche. Puis, fait que, tu sais, allez-y vraiment avec un bois fort sur tout ce que vous voulez. Si vous êtes capable de gérer votre machine comme il faut, ça ne changera pas grand-chose. Là où ça peut venir jouer, c'est que si vous me dites, hey, moi, je fais des pétons, je fais du homard, je fais du saumon, là, je vais vous dire, là, allez-y vraiment, pommier, cerisier, érable, parce qu'on ne veut pas venir masquer le goût de la viande.
OK. Eh bien, regarde, tu as ouvert la porte à une question qui est probablement la plus grande question classique de nos collaborations ensemble, mais je vais te la demander pareil, vu qu'on est à une autre heure de d'habitude, puis peut-être que des gens qui ont le goût de se lancer là-dedans, le fumoir, moi, c'est une passion, tant mieux aussi. Je peux encourager quelqu'un à se lancer, mais Michael, est-ce qu'on vise une belle fumée bleue ou une grosse fumée blanche épaisse?
On va aller vraiment vers la Tin Blue Smoke, la petite fumée qui est bleutée. C'est l'erreur, c'est ça qui distingue quelqu'un qui commence, quelqu'un qui a de l'expérience. En même temps, on est tellement chanceux à cette heure avec les machines aux granules, les machines par gravité, que on n'a plus vraiment besoin de se soucier d'avoir une Tin Blue Smoke parce que ça se fait tellement facilement. C'est surtout pour ceux qui ont des machines au charbon. Mais là, moi, ce que je me rends compte cette année, sur exemple 50 élèves, j'ai peut-être 2 personnes qui ont du charbon puis 48 qui ont des machines au granules. Fait que je vois que le charbon s'en va vraiment, vraiment, vraiment. Il est en déclin. Fait que le monde n'a plus vraiment ce problème-là d'avoir de la Tin Blue Smoke parce que 99% des gens maintenant ont des machines qui sont électriques.
Mm-hmm. Ah, puis ça se fait tout seul, hein? Pour vrai, là. Si
ben
oui, puis si vous n'avez pas le goût de vous casser le basic, là, les machines aux granules, là, c'est tout seul.
Le plus gros défi, c'est de ne pas le congestionner, en fait.
Ouais.
C'est ça?
Oui, hein, effectivement. Mais j'ai trouvé une belle solution, ça, c'est oui. de le laver aux semaines, le jour du Seigneur.
Ah oui, hein?
Ouais, j'ai commencé à faire ça, Michael.
Il a commencé. Il me sent, oui.
Ouais, ouais, je vieillis. Question de ne pas mettre le feu au quartier, là.
C'est bon.
Ouais, parce que j'ai remis le feu dans mon plus récent fumoir qui est flambant neuf, là.
Non, t'as pas fait ça déjà, ouais?
Il y a 6 mois, mais c'est parce que moi, je pensais que le nouveau, il est comme un auto-cleaning. Non.
C'est pas ton nettoyant comme un four.
Ouais, non, c'est ça, parce que quand...
Il a pris un feu.
Ouais, quand je l'ai fermé, quand je le ferme, mon fumoir, il y a un genre de shutdown cycle, là.
Ouais.
Moi, je pensais que c'est une façon de cleaner ou whatever, mais non, c'est pas pour
tu
ça.
Tu l'as appris.
Puis fais attention à ça, hein, ça, j'en vois beaucoup. Le shutdown, là, 5, 10, 15 minutes, c'est important de laisser aller. Je vois beaucoup de monde faire comme, c'est pas grave, je vais fermer un switch en arrière, je vais le débrancher. Savez-vous à quoi ça sert, ce shutdown-là?
Non, ben ça nettoie pas. À part de ça, je sais pas ce que ça fait.
Non, c'est que ça vide ta vis.
Ah, ouais.
Ta vis sans fin, ça la vide sans remettre des granules dedans. Fait que qu'est-ce que ça empêche? C'est que si tu le débranches, ton pot à feu, lui, il a encore du feu dedans. On s'entend?
Oui.
Ton feu va monter dans ta vis sans fin, monter dans tes granules et va finir dans ton bac.
Oh, shit, OK.
Fait que là, c'est plus qu'un feu exact. Fait que là, moi, je vois le monde débrancher ça. Je fais comme, c'est parce que le feu est encore pris puis elle va monter dans ta vis, là. Fait que le monde ne sait pas pourquoi ça fait ça. Fait que attendez le shutdown, c'est bien important.
Ouais, crème maison. Avoir tabarouette, OK. Hey.
Je pense que sa face, il est convaincu.
Ah, oui, oui, je suis en train de magasiner une madame fâchée à la maison, là. Une autre question d'un auditeur, puis celle-là a quasiment un petit côté égoïste, parce que moi, c'est ma coupe de viande préférée, le flanc de porc. Parle-nous de flanc de porc, mais autre que pour faire du bacon. Ça serait quoi les options?
Bon, y a plein d'affaires à faire avec le flanc de porc. On va commencer du plus facile au plus complexe. Flanc de porc, bien normal, coupe sans tranche. On appelle ça des grillades de Valleyfield. Allez voir sur le net des recettes de mélange d'épices, il y en a plein. C'est tellement bon, c'est tellement simple. Puis ça vous prend 5 minutes à faire. J'en ai fait l'autre fois pour une vidéo. Ça faisait des années que j'avais pas mangé ça. Puis si c'est bon, puis si c'est simple.
Ah, c'est incroyable.
Ça pogne dans le cerveau, là, Michael. Les gars, Dan puis Nick, ils m'ont parlé de ça dans le show du matin, là, les grillades de Valleyfield, ça se roule à terre.
Ouais.
Ah, c'est tellement
bon. C'était cœur, hein? Ouais. C'est gras, c'est bon. Puis tu sais, souvent, c'est accompagné d'une bière, veux pas. Fait que c'est festif. Tu manges ça dans des papiers journal, dans des petits cups. T'sais, c'est vraiment bon. Puis ça coûte rien à faire. Là, quand tu vas, tu sais, mettons, on t'achète un flanc de porc, t'en fais de la grillade avec ça. Fait que première des choses. Ensuite, bon, le fameux bacon, ça, tout le monde le sait, on passe. Les fameux burn-in. Oui. Ça, on tombe dans le semi-compliqué. Fait que ça aussi, coupe ça en cube. Il y a un paquet de recettes sur Internet. C'est super bon. C'est juste que je trouve ça que ça donne beaucoup de stock. Faut être plusieurs. Parce que tu vas te tanner de manger des cubes de gras. Là. T'sais, après 3-4, on s'entend que tu as un peu ton cut-off, puis tu vas en avoir genre 45 à manger. Ouais. Fait qu'arrangez-vous pour faire ça avec du monde. Puis honnêtement, j'ai essayé plein de façons, mais réchauffer, je trouve que c'est jamais.
Pareil.
Tu retrouves jamais. Non, c'est ça. Ça revient raide. Tu retrouves pas la bonne texture du fumoir. Fait que tu sais, ce que je fais souvent, c'est que là, tu essaies d'effilocher les bouts qu'il n'y a pas de gras. C'est vraiment de quoi qu'on mange, je pense, bing-bang de même. Là.
Ouais, exact.
Sinon, ensuite, là. Ouais, la porchetta, OK?
Okay.
Ça, c'est incroyable.
C'est un porc c'est quoi, en la porchetta? Fait qu'il y a des tomates.
Ben, c'est un porc.
Non,
il n'y a pas de tomates. Sinon, j'en vendrai pas. Mais c'est un flanc de porc que tu viens assaisonner, OK? Dedans, tu peux mettre, mettons, plein de romarin, plein, tu sais, un genre de pâte avec de l'huile.
Ah,
tu peux venir te mettre après ça des morceaux de viande et tu viens rouler ça. OK? Oui. Tu viens ficeler ça et tu fais fumer ça low and slow, puis tu peux venir le saisir à la fin pour avoir une peau qui est carrément croustillante, que tu viens gratter un couteau dessus puis tu l'entends. Tu coupes ça, c'est complètement fou le goût de ça. Ça prend pas de saumure, ça prend pas de salaison. Tu peux décider à midi de faire ça pour souper. C'est quand même un 5-6 heures de cuisson. C'est excellent. C'est excellent comme recette. Puis tu peux tellement changer les aromates pour que ça goûte d'autres choses. Après, il n'y a plus de limite. Là.
Oh, wow. Yummy, mon cher.
Ah, c'est l'heure critique pour avoir faim.
Ah ouais, exact.
C'est l'heure.
On t'a mis à 11 heures. C'est pas un hasard, mon cher. Ça. Écoute, encore une fois, un gros merci de nous avoir jasé.
Ça fait plaisir. Merci à vous autres. J'adore ça. Quand vous avez besoin de moi, vous savez c'est quoi mon numéro.
Absolument. Puis le maître fumeur, on peut trouver tes livres de recettes un peu partout. J'encourage les gens
partout.
À s'inscrire sur ta page, en fait, à aller s'abonner à ta page sur Facebook, la plus grosse communauté
sur Facebook,
de fumoirs.
Oui, il y a un concours présentement sur la page Maître Fumeur. Si vous voulez aller voir ça, je fais tirer une torche. Ça ressemble à un gun pour te. En tout cas, allez voir ça. Je vous donne pas plus de détails, mais je fais tirer une torche dans les prochains jours.
Ah, cool. Hey, on se reparle bientôt, mon cher.
Yes, bonne journée.
Salut, bye-bye.
Bonne fin d'été.
Salut,
bye.
Michael Béliveau, le maître fumeur, le meilleur de la business. C'est nous autres dans le Spacecast qui l'avons. Circulation, Camille.
Oui, petite mise à jour aussi sur l'emplacement du camion en feu actuellement sur l'embranchement là, depuis sur Henri IV Sud, accès depuis Quatre-Bourgeois. Là. Fait que vraiment, quand tu rentres sur l'autoroute Henri IV à la hauteur de Quatre-Bourgeois,
okay.
C'est la voie de droite qui est bloquée par un véhicule en feu présentement. On dit qu'on voit ça jusqu'à Vanier.
Fait qu'on est au rouge.
On est au rouge actuellement. Actuellement, les services d'urgence sont sur place, mais ça complique la circulation en ce vendredi. On sait que ça commence tôt le vendredi pour le week-end. C'est à partir de Charest qu'on commence à ralentir, mais voie de droite bloquée à la hauteur de Quatre-Bourgeois.
Thank you.
Couture. On fait une petite pause, puis on revient dans pas long.
Dans le mid, Radio X.